Alors bonjour, moi je vais vous présenter un outil réseau qui est écrit en Python qui s'appelle Scapy, qui n'est pas très très connu. Il y a très peu de documentation, très peu de recettes de cuisine toutes faites avec, et pourtant c'est un excellent outil. Donc il manque beaucoup de documentation, qui est pourtant assez mature et qui permet de faire pas mal de choses. Et puis comme la sécurité c'est en vogue en ce moment, donc j'orienterai un petit peu la présentation de cet outil réseau autour de la sécurité. Voilà, alors qu'est-ce que Scapy? Ça sera la première partie donc, de cette présentation, parce que comme c'est très peu connu, ça nécessite quand même un petit débrief. Ensuite, pour comprendre le reste de la présentation, en fait, je vous présenterai quelques notions réseau, quelques rappels réseau, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le réseau. On verra ensuite quelques manipulations basiques sous Scapy. Donc comment créer un paquet, comment envoyer un paquet, comment faire des entrées-sorties avec. Ensuite, on passera à la partie principale de la présentation, qui est l'utilisation avancée de Scapy, donc orientée sécurité réseau. Donc, on verra ce que permet de faire Scapy dans ce domaine-là. Et puis, une dernière slide avec des références si vous voulez aller plus loin et découvrir un peu plus l'outil. Voilà, alors qu'est-ce que Scapy? Alors déjà, c'est un interpréteur Python. Donc, quand vous lancez Scapy, vous vous retrouvez exactement comme si vous lanciez un interpréteur Python, vous avez un prompt, et puis vous pouvez taper des expressions, et elles sont directement évaluées. Donc vous pouvez très bien faire du calcul avec Scapy, faire des boucles, faire de l'affichage, tout ce que vous voulez. C'est simplement donc un interpréteur Python dans lequel on a des fonctions réseau en plus. D'accord ? Alors pourquoi Scapy a été inventé ? Parce qu'il y a déjà pas mal d'outils réseau qui existent sur le marché. Je pense que vous connaissez des scanners de port comme par exemple Nmap. Vous avez des outils pour faire des pings, pour faire des trace routes, donc ça c'est des outils ultra connus. Pourquoi Scapy a été inventé? Parce que en général, dès qu'on veut sortir un petit peu d'une utilisation basique de ces outils réseau-là, on est embêté. On est embêté pourquoi? Parce qu'on ne peut pas modifier l'outil sans reprogrammer, sans recoder en C derrière, ce qui est un petit peu lourd. Donc à titre d'exemple, en fait, si vous voulez construire juste un seul paquet en C, hein, vous voulez faire un ping par exemple en C, vous avez à peu près 60 lignes de code. D'accord, donc c'est un petit peu lourd, juste pour modifier votre fonction ping. Voilà. C'est un petit peu compliqué de reprendre le programme ping et d'aller le modifier pour modifier votre ping. Si vous voulez qu'il ait la même taille, qu'il ait le même contenu, ou si vous voulez que le ping soit émis en continu, en boucle, vous avez du mal avec la plupart des outils réseau existants. D'accord. Vous avez des outils donc, qui permettent d'être un peu plus fin dans les paquets que vous allez envoyer et puis de pouvoir faire un peu plus de choses. Mais généralement, il y a à connaître tous les flags possibles et imaginables. Donc, vous avez des choses du genre -a, -i, -j, -r, l'adresse IP. Et du coup, c'est un petit peu difficile aussi à manipuler. Donc, Scapy est fait pour pallier à tous ces problèmes-là. Et c'est un outil multi-utilisation. Donc, c'est à la fois un forgeur de paquets qui vous permet de créer vos propres paquets. C'est un sniffer. Donc, qui vous permet de sniffer le trafic, hein, comme vous feriez avec TCP dump ou avec Ethereal, si vous connaissez. C'est un scanner qui peut scanner donc des machines, scanner des ports. C'est un outil de test qui permet donc de tester si certaines machines ou certains services sur le réseau sont actifs. C'est un outil de fingerprint qui permet à distance d'aller détecter si des machines sont des machines Windows ou des machines Linux, par exemple. Qui peut même aller un peu plus loin en détectant les services PAC, par exemple, ou l'heure à laquelle est réglée la machine. Donc on peut faire des choses très très fines avec. Et c'est aussi un outil d'attaque qui permet de tester donc, la solidité d'implémentation de certains algorithmes. Donc en essayant de mettre des valeurs non prévues dans les protocoles, voir un petit peu comment les équipements ou comment les services réseau vont se comporter derrière. Voilà, donc pas mal de fonctionnalités dans cet outil-là. Et on va voir comment il arrive à concilier en fait sa complétude avec sa facilité d'utilisation. Donc je vous ai mis un certain nombre d'outils réseau. Je vous ai mis un certain nombre d'outils réseau qui est susceptible de pouvoir remplacer. D'accord. Alors, Ethereal, Wireshark sont des sniffers réseau. Donc, vous pouvez sniffer le réseau avec. TCP dump aussi. Des sniffs, ça permet de capturer des mots de passe sur le réseau. Excalibur, ça permet de forger des paquets. Ping, vous connaissez. Hein. Traceroute aussi, je suppose. Nmap, c'est un scanner de port. Xprop, c'est un outil de fingerprinting. Et Ethercap vous permet de faire du détournement réseau. Voilà. Donc tous ces outils-là, en fait, vous pouvez les remplacer par Scapy, tout simplement. Alors, les avantages de Scapy par rapport aux autres outils réseau, il n'y a pas de syntaxe complexe à retenir. C'est-à-dire, il n'y a pas de flag dans Scapy, il n'y a pas une liste de commandes à rallonge. D'accord, la liste de commandes, on va la voir, elle est très très réduite. Ce qui permet de ne pas avoir à retenir des syntaxes complexes. Les fonctions de haut niveau sont déjà implémentées. D'accord, donc, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est un outil qui n'est pas dédié à une tâche spécifique en particulier. Vous pouvez tout et rien faire avec Scapy. Hein. C'est un outil qui est modulaire et c'est un outil qui est extensible. Si un jour vous voulez créer votre propre protocole réseau, en fait, vous avez tous les outils dans Scapy pour le faire, pour décoder un protocole ou au contraire pour émettre des paquets selon un certain protocole. Alors, les points forts de Scapy, c'est donc un langage interactif de haut niveau. Ça permet la forge et l'analyse de paquets de façon très simple. Et c'est un outil qui va passer le firewall local. Hein. Même si vous avez un firewall en écoute ou en émission, en fait, c'est un outil qui va travailler en dessous le firewall. On verra donc au niveau couche 1 ou couche 2, ce qui permettra donc de s'affranchir de ces problèmes de règles de firewall. Et dans les points faibles, parce qu'il en faut bien, hein, vous ne pouvez pas traiter trop de paquets simultanément avec Scapy. Donc si vous avez affaire à des gros trafics réseau, c'est un outil qui sera un petit peu limité. Hein. Faut pas oublier que Scapy donc, est écrit intégralement en Python, donc vous allez souffrir de problèmes de performance sur des gros débits. D'accord. Ça fournit les résultats bruts, ça les interprète pas, donc le programme n'est pas intelligent. Enfin, ça, il n'y a pas de surprise hein, par rapport à d'autres programmes. C'est à vous d'interpréter les paquets que vous recevez, c'est pas Scapy qui va les interpréter. Et il y a un support partiel de certains protocoles complexes. Donc, par exemple, IPv6, c'est pas totalement implémenté. Voilà, alors on va voir quelques notions réseau déjà pour pouvoir appréhender un peu la suite. Qu'est-ce que c'est le modèle OSI déjà? Donc le modèle OSI, ça vient de Open System Interconnection. C'est une norme en fait qui a été créée en 1984 qui permet d'expliquer la totalité des protocoles réseau. Voilà, alors la quasi-totalité des protocoles réseau sont basés sur cette structure en 7 couches. D'accord? Donc vous avez la couche physique, c'est tout ce qui est la transmission radio, transmission du signal, donc transmission électrique, signaux électriques, jusqu'à la couche application, donc qui va intéresser les applicatifs qui veulent communiquer entre eux. Et donc en passant par la couche réseau, tout ce qui est adresse IP par exemple, la couche transport, tout ce qui est protocole de transport, etc. etc. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand un applicatif d'une machine veut communiquer avec un applicatif d'une autre machine? Ben, l'applicatif possède un certain nombre de données à envoyer. Il va encapsuler ces données dans plusieurs couches. Hein, et donc, les données vont traverser tout le système, donc de l'applicatif aux couches basses réseau, donc à la carte réseau. Les données vont être encapsulées à chaque fois, donc il y a un rajout d'entêtes à ces données. Et une fois que toutes les entêtes ont été rajoutées, donc le paquet va voyager sur le réseau. Et côté destinataire, ces entêtes vont être décapsulées au fur et à mesure pour pouvoir remonter à l'applicatif de l'autre côté. Voilà donc comment fonctionne le réseau en général, enfin en deux, trois mots. Alors, un descriptif rapide des couches, juste pour vous donner une idée. Donc la couche physique, c'est les signaux électriques ou radio. Dans le cas du Wi-Fi, ce serait les signaux radio. La couche liaison de données, c'est ce qui va identifier donc, les interfaces réseau, donc par exemple les adresses MAC. La couche réseau, c'est tout ce qui va intéresser les adresses IP. La couche transport, c'est tout ce qui est UDP, TCP. Couche session TCP aussi. Couche présentation, c'est tout ce qui est compression ou chiffrage. Donc vous trouvez par exemple SSL à ce niveau-là. Et puis la couche application, donc c'est toutes les données applicatives type HTTP, FTP, SMTP, etc., etc. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu qu'est-ce que fait Scapy dans tout ça. Alors Scapy va gérer un grand nombre de protocoles. Il y a près de 150 protocoles réseau qui sont supportés. Ethernet, IP, IPv6, TCP, UDP, DNS, etc. etc. Pour voir tous ces protocoles, en fait, vous avez une commande très simple en Scapy. C'est la commande ls. Vous faites un ls, sauf que vous rajoutez les parenthèses, hein, vous n'êtes pas dans un shell Unix. La fonction ls vous renvoie tous les protocoles qui sont supportés. Donc vous avez même des protocoles de téléphone, hein, des protocoles comme GPRS par exemple, ou des protocoles comme Bluetooth. Donc une très très grande variété de protocoles réseau. Maintenant, vous pouvez aussi lister les fonctions disponibles dans Scapy. Alors, il n'y en a pas énormément, il y en a une vingtaine. Comme je vous ai dit, il y a très peu de mots-clés. Sinon, vous vous retrouvez dans un environnement Python tout à fait standard. plus donc ces fonctions, cette vingtaine de fonctions de base. Donc vous avez principalement des fonctions pour envoyer les paquets, voire les quatre premières, des fonctions pour sniffer le réseau, donc pour capturer les paquets, des fonctions de fingerprinting, et puis des fonctions un peu plus évoluées pour faire des traces routes, par exemple. Ben, en plus de tout ça, comme vous êtes dans Python, ben, vous avez des fonctions d'introspection, donc qui permettent de vous documenter sur les fonctions ou les protocoles. Donc vous pouvez faire help, le nom d'une fonction, et vous avez donc une aide sur comment utiliser cette fonction-là. Donc quelles sont les options, à quoi sert la fonction. Et puis quand vous faites dire donc, sur un protocole, ben, vous avez la totalité des attributs et des fonctions sur ce protocole-là. Voilà, alors on va passer à la fabrication de paquets, voir des choses un peu plus pratiques. Pour fabriquer des paquets dans SCAPI, vous n'avez pas besoin de remplir tous les champs. Hein, parce qu'un paquet, en général, ça va contenir un certain nombre de champs. En général, il y a une quinzaine ou une vingtaine de champs pour un paquet très très simple. S'il fallait tous les remplir, ça serait un peu compliqué. Donc SCAPI introduit des valeurs par défaut dans les champs. Par exemple, la durée de vie du paquet, ça serait un peu pénible d'avoir à la réaffecter à chaque fois que vous envoyez un paquet. Donc il y aura une durée de vie du paquet qui sera fixée par défaut. Vous avez juste à vous inquiéter des données spécifiques à mettre dans votre paquet. Alors, il suffit d'empiler naturellement les couches réseau des plus basses aux plus élevées au niveau de la syntaxe. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Si je veux faire un ping vers Google, un ping, c'est quoi? C'est un paquet IP au niveau de la couche basse et on empile dessus un paquet ICMP. Donc, on va indiquer avec un slash la superposition des couches. Si j'ai un paquet avec trois couches, ben, je vais mettre couche A, slash couche B, slash couche C. D'accord ? Et enfin, la résolution DNS est automatique. Normalement, dans un paquet IP, on trouve une adresse IP. Mais si vous ne voulez pas vous embêter à mettre une adresse IP, vous pouvez directement mettre un nom. SCAPI sera suffisamment intelligent pour faire la résolution d'adresse IP au moment de l'envoi. D'accord ? Donc voilà comment vous envoyez un ping. Vous mettez donc une couche IP à destination de google.fr. Vous superposez une couche ICMP. Vous mettez ça dans un paquet et vous avez donc un ping. Donc vous stockez dans un paquet. Jusqu'ici, on ne l'a pas envoyé. On l'a juste mis dans une variable. Cette variable-là, on pourra continuer à la manipuler avant de l'envoyer. Et donc, si vous demandez un résumé du paquet avec la fonction summary, ben, vous voyez que c'est un paquet IP et CMP. Donc, en provenance de mon adresse IP, il me l'a rempli automatiquement, je n'ai pas eu à lui préciser, vers le net, vers Google, et c'est un paquet de type ICMP echo request, donc une demande de ping. Là, si je veux l'envoyer maintenant, bah, je fais un send de mon paquet, tout simplement, un send, le nom de la variable, ça va envoyer mon paquet. Si je veux l'envoyer en boucle, je vais rajouter l'option loop égale 1, je vais pouvoir envoyer en boucle, donc là, j'ai envoyé près de 800 paquets en une ou deux secondes vers Google. Si maintenant je veux avoir une réponse, c'est-à-dire récupérer les réponses de Google, je peux utiliser la fonction SR1. SR1, ça va envoyer et recevoir une réponse. Send and receive one packet. Et je récupère donc la réponse dans la variable Q. Vous voyez ? Et donc là, je peux demander un résumé de cette variable Q. Je vois que j'ai une réponse, echo reply. Donc de l'adresse IP de Google vers mon adresse privée. Et maintenant, je peux voir le contenu du paquet juste en tapant le nom du paquet. Et là, j'ai son contenu. Donc avec l'intégralité des couches, hein, je vois une couche IP, ici j'ai la superposition, je vois une couche ICMP, et ici donc la charge du paquet, son contenu texte.
Question comme ça, pour la boucle, lorsque tu l'as lancée et tu l'as arrêtée, comment ?
Un CTRL-C suffit.
D'accord, ok, voilà. C'est juste.
Sinon, on peut mettre ça dans une boucle et puis mettre un certain nombre d'itérations à la boucle. Hein. Mais avec le loop égal 1, un simple CTRL-C suffit à stopper l'envoi. Voilà. Alors ensuite, comment on continue à manipuler le paquet? On peut examiner le contenu du paquet pour demander si c'est un paquet TCP, par exemple, en utilisant la fonction asLayerTCP. Là, je vois que ce n'est pas un paquet TCP, ma réponse au ping, c'est logique. Par contre, si je regarde si c'est un paquet IP, bah là, on me dit, effectivement, c'est un paquet IP. Enfin, est-ce que ça contient la couche IP, plus précisément? Et ensuite, je peux accéder à une des couches. Donc directement, comme si j'étais dans un dictionnaire, hein, en allant chercher directement la clé correspondant à la couche et en allant chercher ensuite l'entête, le nom du champ qui correspond à l'information que je veux chercher. Après, je peux modifier en temps réel mon paquet. C'est-à-dire, je veux modifier, par exemple, la durée de vie du paquet. Ben, je peux directement affecter, faire la modification sur mon objet. Alors, modifier le paquet, ça va changer son checksum, parce qu'il y a une somme de contrôle qui permet de vérifier que le paquet est correct. Donc, il faut que je détruise le checksum pour qu'à l'envoi, il soit recalculé automatiquement par SCAPI, de façon à avoir un paquet valide. Puis là, donc, je peux demander des informations. Vous voyez, le TTL ici a été changé par la valeur que j'ai précisée. Donc, TTL qui correspond à la durée de vie du paquet. Alors, on va voir comment on fait des entrées-sorties maintenant, basiquement. Alors, pour lancer la capture de trafic, vous utilisez simplement la fonction sniff. Donc, j'ai mis ça dans une variable LP, liste de paquets. Et puis là encore, je fais CTRL-C pour stopper la capture. Vous voyez, là, j'ai capturé 40 paquets TCP. Alors, j'ai deux fonctions, WRPCAP et RDPCAP, qui permettent d'écrire la liste des paquets dans un fichier de capture PCAP et de lire ensuite cette liste de paquets. Il est assez facile de sauvegarder et de recharger comme ça une liste de paquets au format PCAP, donc c'est un format standard qui fonctionnera sous Ethereal notamment, Ethereal Wireshark. Voilà, je peux convertir ensuite un paquet en chaîne de caractères, donc ça c'est pour voir comment circule le paquet sur le réseau, la forme brute du paquet. Je peux reconstituer ensuite à partir d'une chaîne de caractères le paquet et puis tester que l'interprétation de la chaîne de caractères dans SCAPI redonne bien le paquet initial avec l'opérateur d'égalité. Une fonction qui est très sympa aussi pour faire de l'export et pour voir les paquets visuellement, vous prenez un paquet, vous lui appliquez la méthode PDF dump et en fait ça va ouvrir votre lecteur PDF avec un descriptif graphique du paquet. Donc là vous voyez la forme hexadécimale du paquet et ensuite ici les couches avec les différents champs et puis donc des marqueurs pour indiquer où est stockée l'adresse IP, où est stockée la durée de vie du paquet dans la trace hexadécimale du paquet. Donc ça permet d'interpréter graphiquement le paquet. Voilà, alors c'est bien d'avoir un interpréteur et de pouvoir taper les commandes les unes après les autres, mais c'est pas très pratique pour scripter, notamment quand on commence à faire des boucles et des tests. Donc pour scripter, vous avez une possibilité d'importer SCAPI comme un module, donc dans un programme Python. Vous créez un fichier texte donc avec l'entête qui permet de faire reconnaître au système que c'est un script Python. Vous importez le module 6 et vous rajoutez donc au Python pass, le répertoire d'installation de SCAPI. Et ensuite, vous pouvez importer donc tout le module SCAPI avec un from SCAPI import étoile et du coup, vous vous retrouvez avec exactement la même syntaxe mais dans un fichier de script. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ces fonctions de base, on va pouvoir regarder un petit peu au niveau sécurité ce qu'on peut faire avec. Donc, cette slide-là vous présente un petit peu à quoi ressemble une attaque informatique. Quand on parle d'attaque informatique, ça se fait toujours de la même façon, hein, que ce soit une attaque par un débutant, par un hacker expérimenté, une attaque réseau, une attaque système, une attaque applicative, c'est toujours pareil. L'attaquant va commencer par prendre de l'information sur le système, c'est-à-dire notamment par voir un petit peu quel est le périmètre qui va attaquer, quel est le service qui va attaquer, quel est l'ordinateur qui va attaquer, et avec quelle faille. Donc ça, c'est la prise d'information. Ensuite, une fois qu'il a identifié, qu'il a circonscrit tout ça, il va gagner l'accès au système, donc en utilisant une vulnérabilité. Là, ça peut être une vulnérabilité réseau, applicative, système, etc., etc., peu importe. Après avoir fait ce gain d'accès, généralement, il ne va pas être tout de suite administrateur, donc il va devoir élever ses privilèges, donc utiliser une deuxième faille pour pouvoir être administrateur sur le poste. Une fois qu'il est administrateur, il va chercher à maintenir son accès. Pourquoi ? Parce que si la vulnérabilité a été patchée, hein, si vous avez votre Windows Update qui s'est lancé entre-temps, ben, l'attaquant ne pourra pas revenir sur le poste. Donc il va installer une sorte de porte dérobée, un cheval de Troie, comme on dit, pour pouvoir revenir sur le poste si la vulnérabilité a été corrigée. Et ensuite, ce qu'il va chercher à faire, c'est donc faire cette intrusion de façon discrète. Donc dès qu'il est administrateur et qu'il est sûr de pouvoir revenir, il va nettoyer les traces pour pas qu'on puisse l'identifier. Alors maintenant, comment SCAPI va pouvoir répondre à ces problèmes de sécurité, donc va pouvoir permettre de tester sa propre sécurité. Donc je vous ai mis quelques petits scénarios, quelques petites recettes sur ces phases-là. Alors au niveau de la prise d'information, qu'est-ce que SCAPI peut faire ? C'est un scan TCP, donc voir les ports ouverts sur une machine. Comment vous feriez donc pour voir les ports ouverts sur une machine? Vous fabriquez donc un paquet IP à destination d'une machine. Vous rajoutez donc une couche TCP, des demandes de synchronisation, donc des paquets TCP SYN. Et puis ici, ce qui est pratique dans SCAPI, c'est que vous pouvez directement mettre une liste de ports et ça va créer un train de paquets au lieu de faire un unique paquet. Donc là, j'ai créé un train de paquets en fait qui vont viser tous les ports de 1 à 100 sur la machine 0.1. Voilà. Donc ça, c'est quand on est avec la notation tuple des parenthèses. Si on est avec la notation liste, si c'était avec une notation liste, on viserait seulement deux ports, le port 1 et le port 100. D'accord ? Ensuite, on envoie ces paquets avec la fonction send-receive. Et ensuite, on fait un petit résumé des paquets qu'on a reçus. Et ici, donc, on met une lambda fonction qui permet de sélectionner les paquets SYN-ACK, c'est-à-dire les paquets d'acquittement de la connexion, ceux qui ont réussi à revenir. Et là, donc, on voit, vous voyez ici, donc, le port Telnet ouvert et le port SMTP ouvert. Donc, j'en déduis que mes ports 23 et 25 sont ouverts sur ma victime. Alors, vous avez des fonctionnalités très avancées que vous pouvez faire, notamment scanner les machines derrière une passerelle ou derrière un load balancer. Généralement, ce genre d'équipement est complètement opaque et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous pouvez, avec SCAPI, connaître le nombre de machines qu'il y a derrière une passerelle ou derrière un load balancer. Comment ça marche? En fait, chaque système d'exploitation possède un compteur de paquets IP, et chaque système d'exploitation numérote ses paquets IP. Donc, autrement dit, quand vous recevez des paquets IP et que vous tracez les compteurs de ces paquets-là, vous avez autant d'orbites qu'il y a de machines derrière une passerelle ou un load balancer. D'accord ? Donc ça vous permet de détecter un réseau privé derrière une simple machine. Autre fonctionnalité très sympa de SCAPI, le trace route graphique. Donc je vais pouvoir préciser plusieurs cibles. Donc ici les sites Microsoft.com, Cisco.com, Yahoo.com, Wanadu.fr, Packsec.com et plusieurs ports, là le port 80 et le port 443, sur chacune de ces cibles. Et faire un trace route donc vers ces deux ports sur toutes ces cibles. Ensuite, on demande le graphique. Et là, on va obtenir toute la topologie réseau qu'il y a devant ces fameux sites. Hein, donc, à la fin, donc, vous avez les nœuds terminaux. Et là, vous obtenez toute la topologie réseau. Donc, au début, vous voyez tous les chemins qui passent par les mêmes routeurs. Là, c'est donc l'architecture réseau de chez Free, chez Proxad Free. Et puis, en fait, les routeurs qui séparent progressivement les routes à destination de mes victimes. Et là, par exemple, je peux observer une divergence des chemins quand je passe par le port 80 ou par le port 443. Ça veut vraisemblablement dire qu'il y a une machine qui va servir de proxy et qui va mettre en cache les résultats des pages web quand je tape en HTTP, donc sur le port 80. Et vous savez qu'en SSL, donc quand le trafic est chiffré, on ne peut pas mettre en cache le résultat. Donc on passe par un autre chemin qui n'est pas un serveur de cache. Donc là, on peut vraisemblablement deviner ici qu'on a un serveur de cache HTTP. Même phénomène ici, donc une digression entre les ports 80 et 443. Donc ça, c'était au niveau prise d'information. Au niveau gain d'accès, qu'est-ce que peut me permettre de faire SCAPI? SCAPI me permet de faire du détournement réseau. Je suis sur un réseau, je veux détourner le trafic de façon à pouvoir m'interposer entre la victime et la passerelle, par exemple, pour intercepter son trafic et récupérer des mots de passe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction ARP cache poison. Donc je vais mettre l'adresse IP de ma victime et l'adresse IP de l'autre machine entre lesquelles donc, je souhaite m'interposer. Et en parallèle de ce lancement, en fait, je vais sniffer le trafic et là je vais mettre une lambda fonction pour sélectionner exactement le trafic qui m'intéresse. Donc je vais par exemple garder que le trafic TCP qui contient des données et dans lequel on trouve le mot passe espace dans le payload du paquet. Et là, ça me permettra donc d'identifier des mots de passe en clair. Et là, passe espace, donc ça vient du protocole FTP. Donc là, cette fonction-là en fait interceptera tous les mots de passe FTP. Ensuite, au niveau du gain d'accès. On peut s'amuser à trouver des vulnérabilités connues ou inconnues dans certains services réseau. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le fuzzing. Le fuzzing, ça consiste à forger des paquets mal formés et voir comment le système en face arrive à les gérer. Est-ce qu'il va planter, est-ce qu'il va ralentir, ou au contraire, est-ce qu'il va les éviter? Donc, comment on fait du fuzzing avec Scapy? C'est très très simple, là encore, vous avez tout en une seule ligne ou quasiment. Vous forgez un paquet donc vers une cible. Là, le DNS, vous savez que ça fonctionne vers le port 53 en UDP, donc je vais rajouter une couche UDP vers le port 53. Et par contre, au lieu de mettre ma couche DNS et de mettre des informations dedans, je vais laisser Scapy la remplir tout seul avec des données aléatoires. Donc je vais utiliser la fonction fuzz et la couche DNS. Comme ça, il va me créer une couche DNS aléatoire avec des données complètement bidons. D'accord? Et ensuite, je vais envoyer ce paquet avec une boucle infinie. Donc à chaque envoi, il va me générer des données aléatoires. Et si j'observe que mon serveur DNS de l'autre côté a planté, ben c'est gagné. C'est que j'ai trouvé une vulnérabilité dans l'implémentation DNS du service. Donc une paralysie ou un plantage du service DNS en résulte. Voilà. Au niveau du maintien d'accès, maintenant, je suis dans le réseau, je suis arrivé à trouver une vulnérabilité sur un service, à prendre l'accès sur une machine. Comment maintenant je fais fuir de l'information du réseau? Comment je récupère par exemple un document PDF confidentiel qui serait stocké? Il faut que je fasse attention aux systèmes de détection d'intrusion qui vont examiner le contenu des paquets. Donc, comment je peux faire pour éviter tous ces problèmes-là? Ben, je peux en fait cacher mes données confidentielles. Donc je vais envoyer chaque caractère de mes données confidentielles dans un paquet différent, hein, ce qui évitera que l'IDS puisse récupérer donc les données, les identifier dans un seul paquet d'une part, et je vais les cacher même non pas dans le contenu du paquet, mais dans les entêtes du paquet. Donc par exemple dans mon compteur de paquet IP dont on a parlé tout à l'heure. Hein, chaque paquet IP est numéroté. Ben, dans le numéro du paquet IP, je vais mettre le code du caractère que je veux envoyer. Tout simplement. Et donc je vais envoyer une série de paquets et dans chaque paquet donc j'aurai un caractère de mes données confidentielles. Et là, aucun système de détection d'intrusion pourra détecter ce genre de fuite d'information. Donc là, on a fait ce qu'on appelle de l'évasion d'IDS. Voilà. Et donc pour conclure, quelques références si vous voulez vous documenter et aller plus loin. La page officielle de Scapy. Il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Scapy, ça a été écrit par un Français, donc c'est suffisamment rare pour le préciser. Donc ça, c'est la page de Philippe Biondi sur le projet Scapy. Donc vous avez une de ses conférences aussi qui est très intéressante, qui date de juillet 2003. Vous avez un livre d'Aurélie dans lequel il y a un chapitre complet sur Scapy, qui a été écrit par son auteur. Excellent livre de sécurité réseau, Security Power Tools. Et un article dans GNU Linux Magazine numéro 52 de juillet-août 2003. Voilà, je vous remercie.
On va faire les questions assez rapidement aussi parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, deux questions maximum.
C'était juste pour dire que de l'avis des gens qui sont sur IRC, c'est vraiment une très bonne conférence. Voilà.
Merci.
Une deuxième question? Bah, vu que c'est une bonne conférence, il n'y a plus de questions. C'est ça? Ok, on va passer tout de suite au Lightning Talks. Ah, une deuxième question.
À un moment donné, vous avez montré, en fait, pour pouvoir récupérer le mot de passe sur un système FTP. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le login et le mot de passe. Pas le mot de passe en lui-même, on n'arrive pas à en tirer grand-chose.
Compte login et le mot de passe. Juste, j'ai mis au niveau de la signature à repérer, j'ai mis la signature qui précise qu'il y a un mot de passe dans le paquet. Mais quand vous allez récupérer l'information, c'est le paquet complètement que vous allez récupérer. D'accord?
Ah, pourtant, on peut envoyer le login et le mot de passe en deux paquets séparés. Parce que
Oui,
c'est...
on peut l'envoyer en deux paquets séparés, effectivement. Mais enfin, après, il reste juste à changer la règle de filtrage pour récupérer le paquet de login d'une part et le paquet de mot de passe. Donc de mettre un ou, hein, pour récupérer donc ou user espace et passe espace. C'était juste pour récupérer le mot de passe qui est une information plus, on va dire, plus caractéristique que le login.
Allez, une petite dernière pour la route.
Oui, au sujet du fuzzing, comment est-ce qu'on sait quel est le paquet qui a déclenché le problème?
Alors ça, c'est une excellente question. Idéalement, il faudrait loguer les paquets qu'on envoie. Et c'est un problème ouvert, en fait. Il n'y a pas de méthode connue, si vous voulez, pour identifier le paquet exact qui a causé un plantage lorsqu'on fait du fuzzing. Parce que ce n'est pas forcément un paquet qui peut être la cause de l'erreur, mais un enchaînement de plusieurs paquets. Donc il faut retrouver en fait à quel moment s'est produit le bug et ensuite essayer d'envoyer ce dernier paquet-là, voir si c'est suffisant, ensuite les deux derniers paquets, voir si c'est suffisant, les trois derniers paquets, etc., etc., pour arriver à mieux circonscrire le bug qu'on envoie et ensuite procéder à une analyse des paquets qui ont provoqué le bug ou le plantage. Merci.